Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Et oui, oui, bonjour chers auditeurs, c'est l'heure des portes de la connaissance, comme chaque vendredi, on a l'habitude de se retrouver. Et aujourd'hui, on va aborder un thème d'astrophysique. On avait eu Patrick Michel il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé d'Apophis et des géocroiseurs. Et aujourd'hui, on accueille Franck Celsis, qui est directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Et aujourd'hui, on va parler des exoplanètes. Alors, c'est la première fois qu'on en parle. On en avait parlé vaguement, des fois, une fois comme ça, des exoplanètes dans une émission que j'avais faite. Mais on n'avait pas vraiment abordé le sujet en profondeur. Et aujourd'hui, on va en parler. On va parler de la recherche des exoplanètes, comment on fait pour les détecter, comment on fait pour détecter une atmosphère, savoir si on pourrait éventuellement y détecter des formes de vie, etc. Ça va être un sujet très passionnant et très intéressant. Alors Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, première question qui me vient à l'esprit, comment vous en êtes venu à devenir spécialiste, je dirais, dans l'astrophysique de la recherche des exoplanètes ?
Alors, d'abord de par un intérêt qui venait de loin à l'astronomie, aux astres, de par mes études en physique théorique, et puis après il y a une question de bon timing, d'être là au bon moment, puisqu'en fait j'ai commencé ma thèse au moment où la première exoplanète, donc une exoplanète c'est une planète, mais qui n'est pas en orbite autour du Soleil, autour de notre étoile, mais autour d'une autre étoile. La première fois qu'on en a trouvé une, c'était au milieu des années 90, et c'était juste quand je démarrais ma thèse, que j'aurais pu faire sur l'atmosphère de Titan, mais qu'avec mon directeur de thèse, on a réorienté vers le sujet des exoplanètes. Donc voilà, une trajectoire avec une partie, je dirais, construite sur mon cursus, et une partie de chance et de bon timing.
D'accord. C'était un choix vraiment de votre part d'aller vers ce cursus-là sur les exoplanètes ou ça plus était, une direction qui a été donnée ?
Ah non, enfin, c'est... Alors, le choix d'aller vers l'astrophysique, il remonte assez loin et c'était une volonté. Il y avait beaucoup de choses qui m'attiraient dans l'astrophysique. Mais j'avais déjà travaillé lors d'un stage sur la question sur des questions liées aux exoplanètes mais il n'y avait pas de sujet disponible sur cette question-là. Il y avait très peu de gens sur la planète qui travaillaient sur la question des exoplanètes. Elle nous semblait hors de portée à cette époque-là, hors de portée des observations. Et cette découverte par Michel Mayor à l'automne 1995, dont on vient récemment de fêter les 30 ans. Ça a été un déclencheur de dire ah non mais je pense qu'il faut aller dans cette direction et on est parti là-dessus.
Alors cette première exoplanète qui a été découverte par Michel Mayor, c'était quoi ? C'était une géante ? C'était une tellurique ? C'était quoi ?
Oui, alors c'était quelque chose de très exotique par rapport à ce qu'on a dans le système solaire. Et qui fait que... alors, comment je pourrais dire ça ? Disons que il faut bien se rendre compte que, avant de découvrir les exoplanètes, il y avait beaucoup de questions. D'abord, est-ce que les planètes sont des objets communs qu'on va trouver autour de beaucoup d'étoiles, ou est-ce qu'au contraire, c'est assez rare ? Et puis, il y avait aussi... Comment dire ? Si, à cette époque-là, vous vouliez vous lancer dans la recherche d'exoplanètes avec les télescopes existants... Grosso modo, il fallait démontrer que s'il y avait une réplique du système solaire parmi les étoiles les plus proches, vous seriez capable de détecter la Terre ou Jupiter, la plus grosse des planètes du système solaire, avec des caractéristiques similaires à la Terre, similaires à Jupiter. Et ça, c'était, et ça reste aujourd'hui, extrêmement difficile, et c'était complètement hors de portée en 1995. Et Michel Mayor, il a eu l'audace de chercher des objets qui pouvaient être aussi gros que Jupiter, mais beaucoup plus près de leur étoile. Et ça s'est avéré payant, donc il a découvert une planète qui est similaire en masse et en taille à Jupiter, mais beaucoup plus proche de son étoile que, par exemple, Mercure ne l'est du Soleil. Mercure qui est la planète la plus proche du Soleil. Donc une planète qui se trouvait à quelques centièmes de la distance Terre-Soleil, qui était extrêmement chaude et qui n'avait pas du tout d'équivalent dans le système solaire. On a d'ailleurs douté pendant un temps qu'il s'agissait bien d'une planète et pas d'un artefact qu'on n'aurait pas bien interprété, car il faut bien se rendre compte qu'au début, on a surtout découvert les exoplanètes, et c'est toujours vrai, par des méthodes indirectes. Donc cette première exoplanète, elle a été trouvée par Michel Mayor en mesurant la vitesse d'étoiles. Et dans le cas de cette étoile 51 Pegasi, il a pu mesurer que cette étoile, elle se rapprochait, s'éloignait de nous. Elle a son mouvement propre dans la galaxie, hein, mais modulé par un mouvement d'éloignement et de rapprochement périodique avec une période de 4,5 jours. Et la seule façon de l'expliquer, c'est qu'il y avait un objet en orbite autour de cette étoile sur une orbite de 4,5 jours, ce qui plaçait cet objet très proche. Et enfin, avec l'amplitude de ces variations de vitesse, il pouvait déterminer, il pouvait estimer la masse de la planète qu'il a placée dans la gamme des planètes géantes. Donc c'est un objet exotique. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un type d'exoplanète très courant. Hein. On sait aujourd'hui qu'il y a des planètes autour de la majorité des étoiles. Or, ces Jupiters chauds, comme cette première exoplanète qui a été découverte, il y en a peut-être autour d'une étoile sur quelques centaines. Donc ce n'est pas si commun, mais ce sont les plus faciles de loin à trouver.
D'accord. Est-ce que finalement, c'est pas plus facile de trouver une exoplanète du style de la grosseur de Jupiter plutôt que de trouver une exoplanète tellurique du style de Mars ou de la Terre ?
Alors c'est sûr, on est très très biaisé dans notre recensement des exoplanètes. On trouve beaucoup plus facilement ce qui est gros et ce qui est proche de l'étoile. Ce qui est gros, c'est plus massif, donc ça fait plus bouger l'étoile. C'est aussi plus grand, donc dans une autre méthode qu'on utilise, qui est la méthode des transits, c'est-à-dire qu'on va observer les étoiles et essayer de repérer les petites baisses de luminosité apparentes de l'étoile qui sont dues au passage d'une planète devant l'étoile. Et quand ce passage il est périodique, eh ben c'est que en fait on voit l'orbite de la planète par la tranche, hein, et à chaque orbite elle passe devant l'étoile et ça fait une petite baisse de luminosité. Et forcément, si la planète elle est petite comme Mars et l'étoile est grosse, ben ça va faire une baisse de luminosité peut-être indétectable. Mais si c'est une planète géante comme Jupiter, on va pouvoir mesurer cette baisse de luminosité et, avec sa périodicité, l'attribuer sans doute, sans aucun doute, à une planète. Et ce qui est proche de l'étoile, ben c'est parce que, ben, par exemple, ce phénomène d'éclipse ou de transit, comme on dit, quand la planète passe devant, ben, il est beaucoup plus facile à repérer quand il se reproduit tous les quelques jours ou les quelques semaines, plutôt que s'il se reproduit tous les ans ou tous les plusieurs, enfin, qu'il se passe plusieurs années entre chacun de ces transits. Pareil, si on essaie de détecter la modulation de la vitesse que produit l'orbite d'une planète sur la trajectoire de l'étoile, parce qu'on dit souvent une planète c'est un orbite autour d'une étoile. En fait, la planète et l'étoile sont toutes les deux en orbite autour du centre, ce qu'on appelle le centre de masse du système. Donc l'étoile aussi bien que la planète a un mouvement orbital. Simplement, quand la planète est très peu massive par rapport à l'étoile, eh ben le mouvement orbital que fait l'étoile, ce centre est très proche du centre de l'étoile. Il est même souvent à l'intérieur de l'étoile. Mais il y a quand même un mouvement qui est extrêmement dur à observer par la position des étoiles, mais qu'on arrive bien à repérer par les variations de vitesse. Donc tout ça pour dire que voilà, plus c'est gros et grand, et plus c'est facile à détecter, et plus c'est proche de l'étoile, plus on a de chances de le voir. Donc on est très biaisé par ça, et malgré tout, on a trouvé plusieurs milliers, hein, on en est peut-être de l'ordre de 7000, de 7000 exoplanètes découvertes. Et ça montre que ben, y a beaucoup de planètes suffisamment grosses et suffisamment proches de leur étoile pour qu'on les découvre. Si tous les systèmes exoplanétaires avaient la même architecture que le système solaire, aujourd'hui, on n'aurait sûrement rien découvert.
Alors, est-ce qu'on a d'autres méthodes de détection que la méthode du transit ? Comme la méthode d'oscillation, enfin de sorte.
Voilà, donc la méthode qui de loin a donné le plus de découvertes, c'est la méthode des transits, hein, notamment avec le télescope spatial Kepler, qui, entre 2009 et 2003, a trouvé énormément d'exoplanètes. On a eu le télescope spatial franco-européen Corot qui en a trouvé. Actuellement, il y a le télescope de la NASA qui s'appelle TESS, qui continue d'en récolter beaucoup. La première méthode, historiquement, c'était celle des vitesses radiales, qui donc permet de voir, utilise cette modulation, ces oscillations de la vitesse de l'étoile, et permet de peser, de mesurer la masse des exoplanètes. Alors que les transits permettent de mesurer le rayon. Et donc quand on a les deux observations, le transit et les variations de vitesse de l'étoile, on a à la fois la masse et le rayon, donc on a la densité, donc on peut aussi voir si c'est plutôt gazeux ou plutôt rocheux. Il y a d'autres méthodes. La méthode la plus simple à comprendre, c'est la méthode d'observation directe, c'est-à-dire vous pointez un télescope vers une étoile, vous grossissez suffisamment vous repérez les petites planètes qui tournent autour de l'étoile. Alors ça paraît simple, c'est extrêmement compliqué pour deux raisons. D'abord parce que les planètes sont extrêmement proches de l'étoile et que un télescope, quand il regarde un objet ponctuel comme une étoile, il crée sur l'image, il crée une tache de diffraction. Et cette tache de diffraction, généralement, elle est plus grande que la séparation entre l'étoile et la planète. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième, c'est le contraste qu'il y a entre la luminosité de l'étoile et la luminosité de la planète. En rayonnement visible, la Terre, c'est 1 milliard de fois moins lumineux que le Soleil. En infrarouge, un peu moins, peut-être 1 million. Mais ce sont des contrastes qui sont très durs à obtenir et surtout qui sont très durs à obtenir très proches de l'étoile. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à... Les seules, disons, exoplanètes qu'on arrive à détecter comme ça, par cette méthode directe, grâce à ce qu'on appelle la coronographie, un masque qu'on arrive à mettre sur l'étoile pour abaisser sa luminosité et révéler justement les objets moins lumineux qu'il y a dans son environnement, de l'optique adaptative, c'est-à-dire les miroirs qui se déforment pour compenser des effets de l'atmosphère terrestre, de la turbulence de l'atmosphère, des choses comme ça. Et ce qu'on arrive à faire, c'est détecter des bébés Jupiter, des planètes géantes suffisamment loin de leur étoile, pour qu'elle soit assez loin de cette espèce de tache de diffraction que produit le télescope, qui sont assez loin de leur étoile. Et alors, normalement, une planète qui est loin de son étoile, elle est très froide, puisque une planète s'est chauffée par son étoile. Donc la difficulté d'aller chercher des planètes loin de leur étoile, c'est qu'elles sont très sombres. Elles réfléchissent très très peu de lumière de leur étoile et elles émettent un rayonnement infrarouge qui est lié à leur chaleur, qui est très faible aussi. Mais si l'étoile est très jeune et que ces planètes viennent de se former, alors quand on dit viennent de se former, en langage d'astrophysicien, ça veut dire il y a moins d'un million d'années, ou il y a de l'ordre d'un million d'années, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est très peu par rapport à la durée de vie d'une étoile, en tout cas d'une étoile comme le Soleil, eh bien là, cette planète, elle va être encore chaude de sa formation, de toutes les collisions qui ont amené à sa formation, et donc elle peut avoir, mettons, 1000, 2000 degrés. Et dans ce cas-là, on va pouvoir observer la lumière qu'elle émet dans l'infrarouge, bien qu'elle soit loin de l'étoile. Et ça, on a peut-être une trentaine d'exoplanètes jeunes qui ont été découvertes par cette méthode, qui semble la plus naturelle, mais qui en fait est très difficile, et surtout nécessite des grands télescopes, très grands télescopes. Et des télescopes tellement grands qu'ils sont difficiles à envoyer dans l'espace. Donc ça, c'est une autre méthode pour les trouver. Il y a une méthode un petit peu plus compliquée, enfin, elles le sont toutes à leur façon, mais très intéressante, qui s'appelle les micro-lentilles gravitationnelles. Donc là, l'idée, c'est qu'on va tirer parti d'un effet de relativité générale, donc prédit par Einstein en 1915, qui est que quand vous regardez une étoile lointaine, par exemple, si on regarde vers le centre de notre galaxie, donc notre galaxie, elle contient quelques centaines de milliards d'étoiles, mais elles sont plus densément rassemblées au cœur de la galaxie, dans le bulbe central de la galaxie. Et donc il y a une grande population d'étoiles dans le ciel. Et si vous observez cette région, il y a une probabilité pas du tout nulle que pendant que vous observez, une autre étoile passe sur la ligne de visée entre une de ces étoiles du centre de la galaxie et vous, passe exactement entre les deux, alignée, et par un effet de relativité générale, courbure que crée cette étoile sur l'espace-temps, augmente la luminosité apparente de l'étoile de fond, c'est-à-dire fait comme une lentille. Elle va focaliser la lumière de cette étoile lointaine vers vous. Et si cette petite étoile qui est à mi-chemin entre vous et cette étoile très brillante du centre de la galaxie que vous observez, si cette étoile qui fait la lentille a des planètes, la façon dont elle va amplifier le rayonnement va dépendre de la... Elle va être modifiée, altérée par la présence de ces planètes. Et donc on peut déduire de ces phénomènes de micro-lentilles qui se produisent régulièrement et qui durent, des amplifications qui durent quelques jours, quelques semaines, on peut déduire la présence de planètes. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de sonder... des étoiles qui sont plutôt loin de nous et des types de planètes que les autres méthodes ne permettent pas forcément de détecter. Après, c'est frustrant parce qu'on apprend très peu de choses, on a souvent des incertitudes sur la nature du système. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui vient enrichir nos connaissances sur la population des planètes dans la galaxie.
Alors, est-ce que la motivation première des astrophysiciens, c'est de découvrir des planètes, quelles qu'elles soient, ou d'aller à la recherche de planètes qui pourraient être habitables ?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que il y a eu cette première question, qui n'était pas du tout triviale, de savoir si finalement les planètes étaient des objets assez systématiques associés à la formation des étoiles. Est-ce que la plupart des étoiles ont des planètes ? Donc moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on ne savait pas ça. On connaissait que les 8 planètes du système solaire, qui à l'époque étaient 9 parce qu'on y comptait Pluton. Et maintenant qu'on trouve plein de Pluton, on a arrêté de les mettre dans la catégorie planète. Je referme cette parenthèse-là. Donc c'était une vraie question. Et en fait, on sait aujourd'hui, donc après on l'a su au milieu des années 2010... donc finalement que 10-15 ans après la découverte de la première exoplanète, que oui, la majorité des étoiles possèdent des planètes. Et c'est une conclusion à laquelle on arrive, bien qu'on ne soit capable que de détecter de façon très biaisée que certains types d'exoplanètes, à nouveau les planètes plutôt plus grandes que la Terre et plutôt plus proches de leur étoile que la Terre. Donc ça, c'est une première chose. Donc maintenant, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on veut étudier, c'est la diversité de ces planètes, essayer de les caractériser, essayer de gagner un petit peu, justement, d'essayer d'aller vers ces planètes qui sont plus dures à détecter, qui sont plus loin de leur étoile et qui sont plus terrestres par leur taille, par leur température. Et bien sûr, se pose la question, qui, je pense, intéresse pas que les astrophysiciens, de savoir un peu quelle est le caractère exceptionnel ou au contraire assez commun de la Terre. Et bien sûr, quand on dit ça, on ne parle pas juste de la taille, de la température de la Terre, mais des caractéristiques qui ont fait que sur cette planète, la vie est apparue, la vie s'est maintenue et qu'on est capable aujourd'hui d'en discuter. Donc derrière, effectivement, se pose la question de comment je pourrais dire ça ? L'abondance ou la rareté des planètes abritant la vie, capables d'abriter la vie. Et on ne sait pas du tout, ce que l'observation nous dira. On ne sait pas du tout si ces planètes-là sont communes ou rares. Donc c'est vraiment une des grandes, grandes questions ouvertes de la science que de savoir si les planètes possédant de la vie sont hors de portée tellement elles sont rares que c'est comme si on était seul. C'est difficile d'imaginer l'unicité d'un cas vu les dimensions du cosmos. On est dans une galaxie qui a plus de 100 milliards d'étoiles. Il y a plusieurs milliers de milliards de galaxies dans l'univers observable. Dire que ce qui s'est passé sur Terre est unique, c'est un petit peu orthogonal à la démarche scientifique qui nous a montré depuis que ce qui se passe sur Terre, en tout cas au niveau des constituants de la matière, des interactions fondamentales, des lois de la nature, si vous voulez, qu'elles sont les mêmes ici, à l'autre bout de l'univers. Il est donc difficile de décréter unique un événement qui s'est passé ici. Mais par contre, ça pourrait être extrêmement rare. Ça pourrait ne pas se trouver ailleurs dans notre propre galaxie. Ça pourrait ne se trouver que dans quelques galaxies. Et donc être hors de portée, en tout cas aussi loin qu'on puisse l'imaginer, hors de portée de télescope. Mais ça pourrait aussi être finalement suffisamment commun pour qu'on trouve ça autour d'une étoile proche de nous et que ce soit à portée de télescope. Donc en tout cas, si un jour on trouve ça, on trouve une autre planète habitée que la Terre, et que ça se passe dans un délai qui n'est pas de plusieurs millénaires, ça voudra dire que c'est un phénomène commun. Parce que ça voudra dire qu'on a trouvé ça la porte à côté, dans notre tout petit bout de coin de galaxie. Donc, dit autrement, voilà, on ne trouvera ça que si c'est très commun.
Merci, merci Franck, merci beaucoup. On va faire une pause musicale pour nos auditeurs. On va écouter Children of the Sky et après, on revient tout de suite après pour la suite et on ira explorer un peu, on ira à la recherche des planètes, savoir comment on détecte des molécules de gaz dans les planètes, savoir si on a détecté déjà des planètes du style de la Terre, etc., etc. Allez, on se dit à tout de suite.
Some days when I'm dreaming, I think of how far I have come. All my lives led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. All that I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. We're children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. Children of the sky. Give up hope, though there are storms within my seas. Won't turn back when I lack. Sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves. Just wanted to raise up to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be. Destinies calling.
Voilà, après cette musique de Imagine Dragons, Children of the Sky, ce qui veut dire les enfants du ciel, les enfants des étoiles, on était pile dans le sujet. On revient avec Franck Salsis, qui est directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et on parle aujourd'hui des exoplanètes. Pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne, on parle des exoplanètes, ces fameuses planètes qu'on recherche, qui pourraient éventuellement ressembler à notre planète ou avoir une constitution légèrement différente, mais qui pourrait abriter la vie. C'est ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec Franck. Alors Franck, justement, puisqu'on vient puisqu'on parle des exoplanètes, j'aurais une question. Est-ce qu'on en a trouvé des exoplanètes qui ressemblent à la Terre ?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend par « qui ressemble à la Terre ». Mais en tout cas, des planètes qui sont de masse, de densité similaire, c'est-à-dire qui sont des planètes rocheuses essentiellement. La Terre, c'est essentiellement de la roche. Alors quand je dis roche, j'y mets aussi les métaux, mais disons qu'il y a aussi des planètes qui sont constituées de grandes quantités, par exemple, d'eau. Sur Terre, l'eau, c'est moins de 0,1% de la masse de la Terre, donc c'est très peu. Mais c'est très important, bien sûr, et elle est concentrée à la surface. Et il y a aussi des planètes où l'essentiel de la masse est dans une enveloppe gazeuse dominée par l'hydrogène et l'hélium, comme les planètes géantes. Donc des planètes rocheuses, comme la Terre, de la taille de la Terre, et qui ont des températures, ou peut-être plus exactement des insolations, c'est-à-dire qui reçoivent de leur étoile une quantité de rayonnement qui est similaire à celle que la Terre reçoit du Soleil. Ça, on en connaît, et c'est sûrement relativement commun. Après, on a du mal à les trouver, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'on a du mal à les trouver autour d'étoiles qui sont similaires au Soleil. Parce que le Soleil, par rapport à la Terre, c'est une grosse étoile. Donc c'est plus facile pour nous de trouver une planète de taille et de température terrestre autour d'une plus petite étoile. Alors, ce qui nous arrange, c'est que des étoiles plus petites que le Soleil, il y en a beaucoup. Hein, c'est la majorité des étoiles. Hein, je dirais environ, peut-être 70% ou 80% des étoiles font moins de la moitié de la masse du Soleil. Et ça, c'est plus facile pour nous de trouver des planètes comme la Terre. Comme la Terre en termes de taille et de température. Après, pour aller plus loin, bon, déjà, ces planètes qu'on trouve autour de petites étoiles, elles ont dû avoir des origines, des évolutions un petit peu différentes de la Terre, parce que l'étoile est différente. Elles sont notamment soumises à des forces de marée, qu'on appelle les forces de marée, qui sont liées aux déformations que l'étoile induit sur la planète et qui altèrent, par exemple, sa rotation. Donc ces fameuses forces de marée qui font que, par exemple, la période de rotation de la Lune, de notre Lune à nous, est égale à sa période de révolution autour de la Terre, qui vaut environ 28 jours. Ce qui fait qu'elle nous présente toujours la même face. Eh ben, ces petites planètes similaires à la Terre, mais qu'on tourne autour de petites étoiles, elles sont beaucoup plus proches de leur étoile, hein, parce que ce sont des étoiles peu lumineuses, donc pour avoir la même température, il faut qu'elles soient très proches, sur des orbites très courtes. Et elles présentent toujours la même face, le même hémisphère à leur étoile, ce qui a forcément des conséquences sur leur climat. Donc on va vers les planètes qui sont les plus faciles à observer, mais en faisant ça, on s'éloigne aussi du cas terrestre. Alors, est-ce que c'est un problème de s'éloigner du cas terrestre ? Ben, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas finalement quels sont les ingrédients nécessaires à l'émergence, au maintien de la vie. Les conditions d'apparition de la vie sont pas connues aujourd'hui. C'est aussi une des grandes questions, un des grands mystères de la science. Donc on s'interdit rien aujourd'hui, on s'autorise à aller vers de l'exotique. Mais on aimerait aussi pouvoir trouver des terres autour d'étoiles qui sont similaires au Soleil. Vraiment essayer de trouver des choses qui sont encore plus analogues à la Terre. Ça viendra. Il y a un télescope qui s'appelle Plateau, qui sera prochainement lancé par l'Agence spatiale européenne, dont c'est l'un des objectifs, de trouver ces planètes-là. Alors, donc on en connaît, et c'est sûrement commun. Après, l'étape suivante, c'est OK, mais une planète... En tout cas, ce qui nous intéresse quand on s'intéresse à la recherche de vie, par exemple, ce n'est pas juste la masse, la température d'une planète, mais qu'est-ce qui se passe à sa surface ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a une atmosphère pour maintenir cette eau liquide, pour maintenir une température stable ? Quelle est la physico-chimie de cet environnement-là ? Et ça, caractériser l'atmosphère, par exemple, des exoplanètes, on sait le faire pour des planètes qui sont plus grosses et plus chaudes que la Terre. On sait le faire pour des géantes gazeuses. On a déjà pu mesurer la température dans l'atmosphère. On a pu mesurer même des vents sur ces planètes-là. On a pu détecter les constituants moléculaires de ces atmosphères. Donc, je ne sais pas moi, de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du méthane, des choses comme ça. Pour des planètes qui sont intéressantes au sens de possible habitat de planètes analogues à la Terre, on n'est pas encore arrivé à détecter une atmosphère. C'est quelque chose c'est un exercice très difficile. On y travaille, notamment sur quelques systèmes qui offrent des très bonnes conditions d'observation. Il y en a un sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle TRAPPIST-1. Alors TRAPPIST, c'est le nom du télescope qu'il a trouvé, et il a été nommé ainsi par nos collègues belges de l'Université de Liège, qui aiment bien la bière et qui ont réussi à trouver un acronyme qui donnait TRAPPIST. Et cette étoile, elle a au moins 7 planètes qui sont à peu près toutes de la taille de la Terre. C'est une toute petite étoile. C'est ce qui se fait de plus petit comme étoile. Plus petit, c'est plus une étoile. C'est ce qu'on appelle une naine brune. Et donc, ça nous met dans des bonnes conditions d'observation. On a pu montrer que la plus interne de ces planètes, qui grosso modo est un petit peu comme Vénus en termes de température d'insolation, on a pu montrer que celle-là n'avait pas d'atmosphère. Et pour les autres, donc c'est un petit peu comme Mercure dans le système solaire. Mercure n'a pas d'atmosphère, ce qui ne veut pas dire que les autres n'en auront pas. Et pour les autres, on y travaille, mais c'est plus compliqué. Donc il faudra sûrement attendre de nouvelles instrumentations pour avoir des caractérisations plus précises de ces planètes qui, pour l'instant, posent plus de questions qu'elles n'en résolvent.
Alors, est-ce que ce n'est pas compliqué de trouver, ou est-ce que c'est facile, je ne sais pas, de trouver des étoiles de type solaire, parce que ce sont ce genre d'étoiles qui sont, je dirais, faciles pour détecter des planètes qui pourraient permettre un processus de développement du vivant, puisqu'elles sont, elles ont une période de vie qui pourrait permettre de fabriquer la vie sur la planète en question. Ou est-ce que vous découvrez plutôt des planètes de style naine brune, naine blanche, qui abritent des planètes, ou calcinées, parce qu'elles sont des naines blanches, donc des restes d'étoiles, ou des naines brunes? Qu'est-ce qu'on trouve le plus?
Alors, on va mettre de côté ce qui n'est pas une étoile, c'est-à-dire les naines brunes, les objets qui font moins de... moins de 8% de la masse du Soleil et qui sont un peu comme des grosses planètes géantes, mais qui n'étaient pas assez massifs pour vivre comme une étoile et donc pour vraiment générer énormément de lumière. On va aussi mettre de côté les étoiles qui sont, ou les objets stellaires qui sont des résidus qui arrivent après la vie de l'étoile, donc pour les géantes rouges qui sont des phases très courtes vers la fin de vie d'une étoile, les naines blanches qui sont ce qui reste après cette période-là, les étoiles à neutrons, les pulsars autour desquels on a trouvé effectivement des planètes mais qui sont des objets extrêmement exotiques. Donc on va déjà se concentrer sur les étoiles qui sont dans ce qu'on appelle la séquence principale, c'est-à-dire des étoiles qui sont en train de vivre leur vie tranquille. Donc dans le cas d'une étoile comme le Soleil, ça dure 10 milliards d'années, on est à la moitié de cette évolution. Les étoiles moins massives que ça vivent plus longtemps. Les petites étoiles comme TRAPPIST ont une durée de vie immense, gigantesque, qui défie l'entendement, bien plus long que l'âge de l'univers. Et par contre, les étoiles plus massives que le Soleil, elles vont vivre brièvement, hein, notamment une étoile mettons, qui fait 2-3 fois la masse du Soleil, ça vit sans doute à partir de cette masse-là, trop peu de temps pour que la vie puisse se développer. Et puis, ce sont des conditions tout le temps changeantes, parce que ce sont des étoiles qui évoluent très vite depuis leur naissance jusqu'à leur explosion en supernova. Donc on va rester dans une gamme qui va des étoiles les moins massives jusqu'à à peu près les étoiles de la masse du Soleil, ou un petit peu plus massives, mais pas beaucoup, que le Soleil. Et là-dedans, les plus favorables à l'observation, c'est les moins massives. Mais après, on met des cases, des catégories entre étoiles qui sont un peu arbitraires, qui sont propres aux astrophysiciens. Il y a un vrai continuum de propriétés. Mais disons que les étoiles qu'on appelle vraiment solaires, qui ressemble vraiment au Soleil, on va dire, c'est de l'ordre de 5% des étoiles de la galaxie. Donc ça fait quand même beaucoup, on en a largement à se mettre sous la main. Et puis par rapport aux petites étoiles, elles sont brillantes, donc on les observe très facilement. Les petites étoiles, il y en a beaucoup, mais elles sont très peu lumineuses. Donc dès qu'on s'éloigne du Soleil, on finit par ne plus vraiment les voir et elles deviennent difficiles à étudier. Donc chacune a ses intérêts. Elles existent, donc en science on n'a pas vraiment de raison de se focaliser. Certains aimeraient se focaliser sur les étoiles comme le Soleil avec l'argument que oui, mais dans le cas du système solaire on sait que la vie a émergé, donc même si on ne comprend pas les raisons de cette émergence, peut-être que c'est plus malin d'aller chercher spécifiquement autour d'étoiles qui ressemblent le plus possible au Soleil. Mais d'autres disent non, observons toute la diversité, on n'a pas d'argument en termes d'origine de la vie pour aller plutôt pointer vers un type d'étoile ou un autre.
D'accord. Quand on cherche de la vie, qu'est-ce qu'on utilise pour détecter des molécules de gaz, carbone, oxygène, vapeur d'eau, méthane sur les planètes? Quelle est la méthode qu'on utilise? Est-ce que c'est la spectrométrie? Est-ce que c'est autre chose?
Alors, on va distinguer le fait d'étudier la composition des atmosphères, qui se fait effectivement par spectroscopie. La spectroscopie, c'est cette science qui consiste à disperser, comme on fait avec un prisme qui crée un arc-en-ciel, on disperse la lumière qui nous vient d'un astre, donc ça peut être la planète, et en faisant cette dispersion, vont apparaître des signatures, des bandes d'absorption, des raies d'émission, etc., qui sont propres à certaines molécules, qu'on peut associer sans doute, sans aucun doute, à certaines molécules. Voilà. Et donc, on utilise la spectroscopie pour caractériser les exoplanètes. C'est très difficile, puisqu'elles sont très proches de leur étoile, et tout le signal qu'on a vient de l'étoile. Donc, par exemple, on est malin si la planète passe, si on a la chance de voir le système par la tranche et que la planète passe derrière l'étoile. Eh bien, en fait, on fait un spectre de l'étoile quand la planète est derrière, et on refait un spectre de l'étoile quand elle ressort. Et la différence des deux, c'est la lumière de la planète, puisque dans les deux cas, il y a l'étoile, mais il y a un cas où il y a la planète, et il y a l'autre cas où il n'y a pas la planète. On fait la différence des deux, on a la lumière de l'étoile, et on applique la spectroscopie. Quand la planète passe devant l'étoile, il y a les très fins limbes de l'atmosphère qui vont absorber la lumière de l'étoile, et qui vont le faire spécifiquement avec les molécules que contient cette atmosphère. C'est quelque chose. Donc, ces deux méthodes ont déjà donné lieu à la caractérisation d'atmosphères d'exoplanètes, où on a pu dire des choses sur son contenu moléculaire. Et donc, ça, c'est l'étude scientifique des atmosphères d'exoplanètes qui marche bien pour l'instant, ou qui, en particulier depuis qu'on a cet outil extraordinaire qui est le télescope spatial James Webb, qui nous permet d'observer justement sur un grand domaine spectral, c'est-à-dire sur une grande gamme de fréquences de lumière, de pouvoir faire la spectroscopie sur une grande gamme de types de lumière, et en plus avec un grand télescope. Ça, c'est un superbe outil pour étudier les atmosphères d'exoplanètes. On aura, dans quelques années, un petit télescope spatial de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Ariel, sur lequel, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, on est très impliqué, et dont la mission sera strictement et totalement d'étudier la composition des atmosphères d'exoplanètes. Mais on reste loin de planètes vraiment de type terrestre. Ça reste un petit peu marginal. Il faudra, dans le futur, d'autres instruments pour aller vers ces planètes qui sont potentiellement des lieux, pourquoi pas, des lieux habitables, des lieux de vie. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a une stratégie pour chercher la vie. On se projette dans le futur et on se pose des questions. On se pose une question de est-ce qu'on saurait reconnaître une planète qui abrite de la vie, qui a une biosphère très active comme la nôtre, juste par la composition de son atmosphère. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que l'atmosphère de notre planète, elle a été profondément modifiée par le vivant. Elle s'est enrichie en oxygène par la présence de photosynthèse oxygénique, donc d'abord par des micro-organismes, des espèces d'algues, d'algues microscopiques, puis ensuite par les plantes, etc. Il y a coexistence d'espèces produites par le vivant et qu'on ne s'attend pas à trouver ensemble dans une atmosphère, comme par exemple l'oxygène en même temps que le méthane, des choses comme ça. Mais ce sont plus des questions, c'est-à-dire que nous, on sait que l'oxygène sur Terre vient de la vie. Est-ce qu'une hypothétique civilisation extraterrestre avec des astrophysiciens, des exobiologistes qui observeraient notre planète saurait déduire que cet oxygène provient du vivant et ne vient pas d'un autre processus? Donc voilà, pour vous donner une idée, voilà, ma thèse a été en partie dédiée à la question de « Est-il possible d'avoir une atmosphère riche en oxygène sans vie ?» Donc on en est plus dans une phase où on se pose des questions, justement, qui rejoignent la question que vous me posez, c'est-à-dire est-ce qu'on saurait reconnaître une planète qui a de la vie ? Ce qu'on sait de façon assez certaine, c'est qu'on pourrait tout à fait passer à côté d'une planète qui possède de la vie sans la repérer parce qu'elle ne marque pas assez profondément ce qu'on observe sur cette planète. Si vous allez loin de la Terre et vous regardez la Terre, vous allez assez vite, avec l'instrumentation qu'on a aujourd'hui, perdre la signature de la vie, sauf si bien sûr on admet que la composition de l'atmosphère peut être un traceur de la présence de vie. Voilà. Donc est-ce que ça on pourrait l'extrapoler ? Est-ce que, donc, y a eu des annonces à un moment donné de dire quelqu'un a dit j'ai trouvé telle molécule sur une exoplanète, c'est peut-être parce qu'il y a de la vie. Bon, cette molécule, un, elle n'avait pas été trouvée, et deux, même si elle avait été trouvée, bah, ça aurait nécessité plein d'études et de réflexions et d'observations supplémentaires pour comprendre le contexte, savoir est-ce que cette molécule, on a vraiment besoin d'invoquer la vie. Donc une découverte aussi incroyable que la découverte de vie ailleurs, j'espère, en tout cas, reposera sur un grand nombre d'observations et des conclusions extrêmement sûres. Donc on n'a pas vraiment aujourd'hui de stratégie. Par contre, on aura de toute façon besoin de savoir caractériser l'atmosphère, et donc on développe aujourd'hui les techniques pour caractériser les atmosphères. On le fait en particulier avec le télescope spatial James Webb. On va le faire avec des télescopes au sol, avec le prochain grand télescope que l'ESO construit en ce moment au Chili et qui fera 40 mètres de diamètre. Donc voilà, on va se doter des instruments pour apprendre des exoplanètes et faire sortir un petit peu nos connaissances des climats, des atmosphères, qui nous vient du tout petit échantillon que représente le système solaire. On a besoin d'apprendre, voilà, aujourd'hui.
D'accord. Si on extrapole vraiment très loin, est-ce qu'il n'est pas possible de penser qu'un jour, dans le futur, dans de nombreuses centaines d'années, on aura la technologie nécessaire pour déménager de la Terre et pour aller sur une planète où on aura détecté qu'elle est habitable? Est-ce que c'est envisageable, ou est-ce que à l'heure actuelle, on n'est pas capable de se projeter aussi loin dans le futur?
Non, on n'est pas capable de se projeter aussi loin dans le futur. Je pense qu'il y a une chose à dire là-dessus, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas le but des observations astrophysiques. Quand on parle de... On a probablement un vocabulaire qui n'est pas très adapté. Donc, quand on parle de rechercher une planète habitable, on ne parle pas d'habitabilité pour l'humain. L'humain, il est strictement adapté aux conditions très, très spécifiques de sa planète, qui sont contingentes de son évolution, de milliards d'années d'évolution de sa biosphère. Nous, on nous sort, c'est pas forcément vrai pour tous les micro-organismes qui sont beaucoup plus adaptables, mais nous, on nous sort de ça, on change un pouillème d'un facteur et on ne peut pas survivre. Donc quand on dit habitable, c'est capable éventuellement d'avoir développé la vie, mais pas habitable pour nous. Et puis de toute façon, ce sont des distances dont le franchissement... on peut l'imaginer, il n'y a rien qui l'interdit strictement au niveau de la physique, mais qui demanderait des quantités d'énergie, des technologies, qui en tout cas ne sont pas dans notre horizon. Et parfois, on entend cette idée qu'on déménagerait parce qu'on abîme notre planète, avec les gens qui, avec raison, disent ben, « on a déjà abîmé une planète, on ne va pas aller en abîmer une autre ». Mais c'est surtout que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vrai même pour l'exploration du système solaire, je veux dire le fait d'avoir des bases habitées permanentes dans le système solaire, il faut bien se rendre compte que ça, sur des échelles de temps, va se poser avant le problème du maintien de l'environnement terrestre. On a besoin de notre environnement terrestre, on a besoin de la biodiversité terrestre, on a besoin d'être dans un environnement dont on n'a pas trop altéré le climat, dont on n'a pas trop altéré la nature dont on dépend. Donc en fait, si on se place très loin, enfin même pas si loin que ça, l'humanité qui pourra se voir offrir les étoiles ou les planètes, le voyage interstellaire, ce sera une humanité qui aura résolu son problème, sa crise environnementale qu'elle va aujourd'hui. C'est pas une alternative, c'est pas on n'arrive pas à résoudre les problèmes environnementaux sur Terre, on va aller ailleurs. Non, c'est si on n'arrive pas à résoudre les problèmes environnementaux, tout s'arrête, c'est-à-dire tous les développements technologiques s'arrêtent. Et l'humanité n'aura pas de... On s'en fichera bien des exoplanètes. Elles tourneront dans leur coin et on n'aura plus rien à voir à faire avec elles en termes de connaissances. On n'aura plus les instruments pour le faire. On n'aura plus la capacité de travailler ensemble. Ce sera quelque chose d'autre, mais ce ne sera pas la continuité de la civilisation qui a une activité scientifique, etc. Donc... Pour imaginer qu'on soit capable d'avoir des instruments de prochaine génération pour étudier les exoplanètes et de se projeter encore plus loin pour se dire « Ah, peut-être qu'un jour on ira sur une planète du système solaire et peut-être qu'encore dans plus longtemps on ira sur une planète autour d'une autre étoile », c'est qu'on envisage qu'on résoudra la grande crise environnementale que l'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative. Donc dans 30 ans, les exoplanètes, elles tourneront toujours. Est-ce que dans 30 ans, on fera toujours le même type de science, on sera capable d'investir, on aura encore les ressources pour investir dans des grands télescopes? Je n'en sais rien. Voilà, le grand défi, il est là, le grand défi de l'humanité.
D'accord. Merci Franck, merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage. Merci de nous avoir fait rêver, entre parenthèses, parce que c'est toujours, il y a toujours une part de rêve dans l'astrophysique. Merci, merci beaucoup. On va parler du Festival Hypermonde.
Avec plaisir.
Qui a lieu à Mérignac le 26 et le 27 septembre 2026, je crois. Et dont tu mettras en service un podcast. Qui s'appelle comment ?
Alors, il y a deux choses. Donc, le Festival Hypermonde, c'est un festival qui a lieu tous les ans depuis... Ce sera la sixième édition cette année. C'est un festival qui est dédié aux imaginaires, hein, donc pour le faire vite, la science-fiction, la fantasy, que ce soit dans les films, la littérature, les jeux vidéo, toutes sortes d'animations, et dans lequel on essaie de faire dialoguer des scientifiques avec des auteurs, des artistes. Et voilà, c'est quelque chose qui nous semble très riche. Donc, regardez Hypermonde. Donc hypermonde au pluriel.fr, il y a un site, vous trouverez plein d'informations. Et indépendamment de ça, effectivement, à côté, avec une collègue de Grenoble, une astrophysicienne qui s'appelle Lucie Lebouleux, on a un podcast de science, d'astrophysique, où nous deux astrophysiciens que nous sommes, interrogeons deux autres astrophysiciens, ou scientifiques, pas forcément des astrophysiciens, sur leur domaine de recherche. Alors dit comme ça, ça peut paraître des scientifiques qui parlent entre eux. On essaie justement, dans ce dialogue entre scientifiques, de montrer certains visages de la recherche, mais en essayant de rester tout à fait accessible. Ça s'appelle le podcast venu d'ailleurs. Il y a une saison pour l'instant qui était dédiée à la question de la vie dans l'univers, justement.
Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci infiniment d'avoir témoigné, d'avoir parlé. Est-ce que tu as écrit des livres ?
J'ai participé à certains ouvrages. Il y en a un récemment sur on s'est amusé à faire parler la science autour des films Avatar. Donc, il s'appelle Avatar, exploration scientifique et culturelle de Pandora. Voilà, mais j'ai des projets d'ouvrages. Mais pour l'instant, je n'ai participé qu'à des chapitres d'ouvrages collectifs.
Très bien. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission Les Portes de la Connaissance. Surveillez bien sur la page Facebook de Radio des Portes de la Connaissance, savoir quelle sera la prochaine émission la semaine prochaine. Vous aurez en ligne 3 jours avant, de toute façon, l'émission du sujet sur aux deux radios officielles. Et vous saurez quelle sera l'émission la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup à tous et à une prochaine fois.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Les Portes de la Connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.